Pour parler d'un musée consacré au ça se fait plus, ordisor et console de jeu à l'âge de la pierre carrée, nous nous devons d'interviewer celui qui vient de monter le plus grand musée en Europe consacré aux jeux vidéo. Et qu'aucun de sort, il est le président fondateur de MO5, une association de rétrocomputing et rétrogaming qui a plus de 20 ans. L'occasion était trop belle de revenir sur cette saga maillée d'embûches, de boss, de fin de niveau, de pièges, de bonus cachés et d'une immense passion à partager. Nous recevons donc par satellite Philippe Dubois, président fondateur de l'association de rétrocomputing MO5, consultant scientifique pour la Cité de la Villette, ex-administrateur de base de données Oracle et accessoirement grand maître de l'ordre oriental du nanoréseau. CPU carré petit utile. D'abord, pour commencer, puisqu'on enregistre une semaine après l'inauguration du musée du jeu vidéo, très sincères félicitations, ainsi que pour le site web museedujeuxvideo.org qui permet de prévisiter le musée. J'ai trouvé la partie cachée, j'en suis très fier. Vous avez beaucoup de retours presse, je suppose que beaucoup de visiteurs s'y pressent à une semaine de Noël.
Ah oui, c'est je sais même pas comment aborder le sujet, mais en tout cas voilà, on a ouvert un petit peu juste avant les vacances de Noël. C'est ouvert depuis le 13 décembre, hein, donc. Donc ça reste très frais une semaine plus tard. Et dès le début, dès les annonces, ou l'annonce, en tout cas la première annonce qu'on a faite d'ouverture du musée du vidéo, c'était pendant la Paris Games Week en novembre, eh bien on a eu immédiatement une couverture presse assez importante, déjà que on est sur Paris, donc il y a beaucoup de journalistes évidemment dans le coin, et aussi parce que c'est un sujet qui passionne, hein. Pour plein de raisons, notamment qui fait que, alors nous ne sommes pas le premier musée du vidéo, mais on osse la barre certainement au niveau qualitatif, en tout cas on essaie. Et puis surtout les deux précédentes aventures de musée du jeu vidéo, quel que soit leur nom, se sont plantées pour diverses raisons, mais il y avait un flambeau à reprendre, voilà. Et donc voilà ce qui explique pourquoi beaucoup de journalistes, alors déjà naturellement, nous-mêmes on a dans nos réseaux et nos communications et nos partenaires beaucoup de corps éditoriaux, hein, de médias, etc. Donc qu'on connaît bien et qui sont à l'affût de nos nouvelles. C'est ce qui fait que ça a fait beaucoup d'émulsions. Il y a encore beaucoup de passages, hein, de médias qui vont passer. Il y en a demain, il y en a la semaine prochaine qui vont passer au musée. Ça va continuer encore un certain temps. Donc je pense que la couverture médiatique du musée du jeu vidéo, on n'a pas trop à s'inquiéter. Ça devrait bien le faire. On est très contents. Voilà.
Tant mieux pour vous. Comment a été créée l'association MO5?
Ouh là là, ça remonte à très longtemps, hein, comme vous l'avez dit un petit peu en introduction. En fait, alors vraiment très résumé, très 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 résumé. D'abord, c'est une fondatrice en 1993, hein, donc ça fait pas mal de temps. Lorsque j'étais en école d'ingénieur à Perpignan, hein, parce que je suis un enfant du sud de la France, et en fait en 93, un matin, je me suis levé, je me suis remémoré une espèce de flashback, je n'étais pas du tout en train de mourir, de flashback de tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais vécu comme expérience numérique autour de l'usage des jeux vidéo, de l'informatique, des langages de programmation, des annonces, des consoles perdues, enfin des jeux vidéo que j'avais auxquels j'avais joué ou pas eu l'occasion de faire, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'était un matin de 93, je me suis dit, mais toutes ces connaissances, que vont-elles devenir? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans 10, 20, 30, 40 ans? Je vais certainement oublier beaucoup de détails parce que notre mémoire est biologique et elle s'efface, évidemment, petit à petit, comme notre trace sur la Terre, j'ai envie de dire. Donc, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose parce que ça m'embêtait beaucoup. Comme j'avais beaucoup, j'ai vraiment tellement apprécié quand j'étais enfant, mes premiers émois avec un micro-ordinateur, le basique, la programmation, les jeux vidéo évidemment, sur plein de consoles différentes, ou même des ordinateurs. J'avais trouvé ça tellement passionnant que de toute façon j'en ai fait ma vie, j'en ai fait mon métier. Voilà. Et si j'en faisais ma vie et mon métier, ça veut dire que pour moi, justement, toutes ces expériences passées, qui sont extrêmement nombreuses, hein, pour plein de raisons. Eh bien, en fait, les voir disparaître, c'était pas possible, en fait. C'était très, je me sentais vraiment concerné par le fait qu'il fallait absolument garder une mémoire de tout cela. Donc, ce que j'ai fait en 93, rapidement, c'est que j'ai juste ouvert, j'avais pas accès encore à Internet, j'ai juste ouvert un fichier Word et en fait, j'ai fait un dump de ma mémoire. Voilà. Donc, j'ai dit, je sais plus en quel mois on était, peut-être mai ou avril 93. J'ai dit, Philippe Dubois, en mai ou avril 93, voilà tout ce que je connais sur l'informatique, sur les jeux vidéo, sur les langages de programmation, sur comment vaincre tel boss dans tel jeu vidéo, la sélection des armes, comment on se balade, comment on programme un jeu de labyrinthe. Enfin, voilà, c'était vraiment un tome complet. Ça m'a pris une semaine à écrire des lignes. Je crois que j'ai rempli 60 pages de documents. Et au bout d'une semaine, j'ai estimé que j'avais fait le tour de la question, a priori. J'avais couché sur le papier tout ce que je connaissais et j'ai mis ce document de côté. Voilà.
Quelle est la taille du fonds actuel de l'association MO5?
Alors, on a une estimation, ça reste une estimation parce que les inventaires sont en cours et on n'arrive pas, en fait, assez rapidement à faire les inventaires de tout ce qui rentre en termes de dons. Donc, on a une estimation à 70 000 documents. En termes muséaux, documents, c'est-à-dire c'est tout n'importe quoi, hein. C'est des consoles de jeux, des ordinateurs, des périphériques, des magazines, des livres, des disquettes, des logiciels, quel que soit le support. 70 000 documents dans son ensemble, c'est une estimation d'après certains inventaires qui sont assez avancés. Et comme on le dit un peu naïvement, mais parce que c'est vrai, au sein du musée du jeu vidéo, le public ne va en rencontrer peut-être que 5% de nos collections.
Et combien il y a de membres de l'association MO5? Je crois qu'en plus, vous avez des membres d'honneur et vous avez un très, très beau carnet d'adresses.
Ouais. Ben, on a, donc là, le dernier chiffre que j'ai vu passer, parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions actuellement, avec le rayonnement du musée, on est à 625 membres. Voilà.
D'accord.
Et parmi eux, effectivement, il y a les membres d'honneur, qui font partie de ces 625 d'ailleurs. Et les membres d'honneur, voilà, bah, comme on peut le voir sur le site web ou sur le magazine, ce sont parmi les plus grandes personnalités du monde liées à l'informatique et aux jeux vidéo. Beaucoup plus jeux vidéo, parce que ça parle beaucoup plus au public, évidemment. Et dedans, bah, on va retrouver des célébrités françaises ou étrangères. On peut parler de Hideo Kojima, on peut parler de Monsieur Nobuo Uematsu, on peut parler de Philippe Ulrich, de Alexei Pachinov, etc., etc. Enfin, ça va, David Crane. Ça peut aller très, très loin et voilà, des Américains, des Japonais, des Canadiens, des Français, un peu tout le monde. Et petit à petit, on en ajoute. Voilà. On les fait simplement participer, entre guillemets, à l'effort de guerre. Et on leur demande juste une chose, hein, ces membres d'honneur, c'est qu'ils nous soutiennent. Voilà, en disant un petit mot ou s'ils ont un document chez eux lié à la genèse des œuvres sur lesquelles ils ont travaillé, ils peuvent nous les confier. Mmh. C'est on leur demande pas grand-chose, mais en tout cas, ils sont avec nous. Et ne serait-ce que justement les avoir avec nous, c'est pour nous un énorme soutien.
Le projet de monter un musée, ça traînait depuis... Enfin, ça traînait. C'est quelque chose qui mûrissait depuis très longtemps quand même pour votre association.
Oui. Très, très longtemps.
On va passer un petit peu vite hein, sur toutes ces histoires. L'adresse de l'établissement que vous avez ouvert, c'est pas loin de la station La Place du RERB.
C'est ça.
Moi, je suis à Toulouse. Hein, donc, je crois que c'est 10 avenue Paul Doumer à Arcueil. C'est l'ancienne mairie, si je ne me trompe. C'est à quoi? C'est à 300 mètres au sud du périphérique parisien.
Exactement. Oui, c'est ça. C'est vraiment aux portes de Paris. Y a pas besoin d'imager par rapport à ça. C'est vraiment très, très proche. C'est à 10 minutes à peu près en RER de Châtelet, hein, donc du centre de Paris. Et donc, c'est bien desservi. Il y a même un parking parce que comme c'est l'ancienne mairie, donc ce bâtiment a servi il y a encore 3-4 mois à accueillir le public. Donc, il y a un parking accessible qui est gratuit d'ailleurs. Donc, on peut y aller en voiture, on peut y aller en voiture en transport en commun. Donc, c'est assez facile d'accès. Et donc, nous sommes effectivement dans l'ancienne mairie, dans lequel nous avons un espace qui nous est prêté très généreusement par les services de la ville d'Arcueil, pour lequel, donc, pour l'instant, nous occupons, je sais pas, peut-être un cinquième, peut-être même pas, du bâtiment. Voilà.
Ah ouais.
Avec ses 1200 mètres carrés d'exposition. Oui, le bâtiment est immense. Hein. Mais comme on l'a annoncé, en fait, on est les premiers occupants de ce bâtiment, de cette, donc, ancienne mairie, qui maintenant a une destination socio-culturelle associative. Voilà, ça c'est intéressant, parce que nous sommes une association qui est maintenant basée à Arcueil, hein, enfin depuis pas mal d'années. Et en fait, nous sommes les premiers occupants, mais d'autres personnes, d'autres services vont nous rejoindre petit à petit dans les mois à venir. Et donc, le musée va se transformer, va bouger un peu de place, va peut-être changer d'étage, etc., etc. Et donc, va se transformer. Voilà.
On vous souhaite en tout cas que ça soit la bonne adresse.
Ben oui, merci.
Ça veut dire que c'est une adresse qui vous est prêtée par l'équipe municipale actuelle, donc vous êtes quand même, comme tout le monde, un petit peu tributaire des élections qui vont avoir lieu en 2026.
Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas trop de risques que le bord change ou qu'il y ait une révolution dans cette ville, hein, donc on connaît bien les élus et puis la nouvelle élue. Donc.
Et je doute que d'autres candidats ne soient ni joueurs, ni aient envie de froisser la jeunesse actuelle et d'antan.
Oui, voilà, avec le... nous, c'est ce qu'on espère, c'est qu'avec le rayonnement qu'on apporte sur la ville, un rayonnement international, hein, maintenant, puisque le musée du vidéo de l'association MO5 fait partie d'un réseau à minima européen de musées européens dédiés aux jeux vidéo avec la fédération FGAMP. Donc on espère que tout l'éclairage qu'on apporte sur la ville, sur l'accompagnement des services municipaux, fera en sorte que la ville continue de nous soutenir et donc accueille toujours à bras ouverts ce très beau musée du jeu vidéo tel que nous l'avons conçu dans sa première version. Voilà.
Quand est-il ouvert pour le public ?
Il est ouvert très exactement le mercredi, samedi, dimanche après-midi. Ça, c'est pour le public.
À quel prix ?
À quel prix ? La grille des tarifs est sur le site, évidemment. Hein, donc, le site, est très rigolo, le site web du musée du vidéo, puisqu'il y a un jeu vidéo intégré dans le site du musée du vidéo, et il y a même un jeu vidéo intégré dans le jeu vidéo, intégré dans le site du musée du vidéo.
Ouais, il faut passer par le warp, je dirais pas comment.
Voilà, le warp. Exactement. Et c'est qu'un début, on va continuer de l'habiller, etc. Mais, donc voilà, les tarifs sont dessus, donc il y a un prix maximum, on s'était engagé, qui est inférieur à 10 euros. On est à 9,90 pour le tarif le plus haut, hein, sans réduction, sans carte étudiant, invalidité, etc. Et après, on a des tarifs dégressifs selon les personnes, si elles sont étudiantes, si ce sont des enfants, évidemment.
Et justement, à propos des enfants, c'est à partir de quel âge ?
Ben, il n'y a pas d'âge, en fait, hein, tant que les parents accompagnent leurs enfants, ils peuvent venir, n'importe qui peut venir. Nous, on a offert la gratuité pour les enfants jusqu'à 6 ans. Voilà.
D'accord.
Au-delà de 6 ans, ça devient payant avec un tarif très préférentiel, c'est-à-dire moins de 5 euros. C'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Et les arcueillers aussi, arcueillers et arcueillaises, ont un tarif préférentiel, moitié prix, lorsqu'ils viennent visiter le musée. Et ce qui est plus important encore, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai dit tout à l'heure que nous avions beaucoup plus d'adhérents depuis l'ouverture du musée, c'est que le musée est gratuit pour les membres de l'association, bien sûr, puisque quelque part c'est leur musée.
Donc s'il y en a qui veulent revenir plusieurs fois, ils ont intérêt à devenir membres. Good game !
Eh bien oui, c'est ce qu'on estime, et ça marche a priori plutôt pas mal, tout le monde est content, donc finalement c'est du win-to-win, comme on dit.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Philippe Dubois, président fondateur de l'asso MO5 et surtout qui vient d'ouvrir le musée du jeu vidéo, donc à Arcueil. Avant l'ouverture de ce musée, comment faisait l'association MO5 pour stocker son fonds ? Car quand même, vous devez avoir une collection absolument gigantesque.
Oui, elle est d'ailleurs beaucoup trop importante par rapport à nos moyens de stockage depuis très longtemps. Comme je disais tout à l'heure, on travaille avec les services culturels de la ville depuis très longtemps. Nous sommes implantés en fait à Arcueil depuis 2009. Et de ce temps-là, donc nous avons pu avoir accès à un local de stockage pour nos collections, qui est vraiment d'ailleurs à quelques dizaines de mètres, je dirais, de l'ancienne mairie, hein, là où actuellement on a construit le musée du vidéo. Donc à seulement quelques dizaines de mètres, nous avons un lieu de stockage qui est secret et dans lequel il y a toutes les collections de l'association qui sont énormissimes. Enfin, c'est inimaginable. C'est complètement fou.
Pourquoi ne pas avoir tenté un partenariat avec un musée déjà établi ou une université ?
Il y a des partenariats. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, le musée du vidéo, dès qu'il est né, le jour J, c'est tout de suite inscrit dans un réseau de musées européens dédiés aux jeux vidéo, qui est notamment qui sont les membres de la Fédération européenne EFGAMP, et dans lequel il y a la majorité des pays européens qui sont représentés. Et c'est une fédération qui a été ouverte, qui a été créée en fait en 2013, entre l'Allemagne, qui disposait déjà du Computerspielmuseum de Berlin, hein, qui est le premier musée du jeu vidéo européen depuis 2011, l'association Vigamus, qui est devenue le musée GAM à Rome, voilà, qui existe depuis à peu près une dizaine d'années maintenant, et l'association MO5, dans le but, évidemment, toujours de créer un musée d'envergure nationale des jeux vidéo en France. Et donc, cette fédération européenne EFGAMP, dedans, si vous allez sur le site, hein, efgamp.eu, bien, en fait, vous verrez qu'il y a plein de membres européens. Il y a la Suède, la Finlande, la Suisse, l'Italie, je pense qu'il doit y avoir l'Espagne ou pas loin, la Pologne, l'Autriche, il y a la Scandinavie, enfin bref, il y en a plein, l'Angleterre. Et en fait, nous étions, c'est ça qui est un peu curieux. Bon, enfin, il y a des explications à cela, mais on n'a peut-être pas le temps de développer ça maintenant. Mais la France était finalement un des derniers pays, grands pays européens, à ne pas disposer de son musée de jeux vidéo, on va dire d'envergure nationale. Je peux pas dire nationale parce que c'est pas le cas, mais en tout cas d'envergure et de qualité. Tous nos copains européens en avaient déjà un depuis très longtemps, et la France n'en avait pas. Et donc le musée du jeu vidéo de l'association M-5 vient combler qualitativement ce manque en offrant voilà un espace, bah, on l'a dit, aux portes de Paris, qui est vraiment très grand, très beau, dans lequel justement tous nos partenaires européens sont invités, et nous avons reçu d'ailleurs les félicitations de tous nos partenaires. Voilà.
Et bravo. Il y a déjà eu un musée du jeu vidéo en plein Paris en 2010, à l'Arche de la Défense. C'est une aventure qui s'est interrompue brutalement et d'une manière assez triste. Est-ce qu'on peut rapidement raconter l'histoire de justement de cette exposition ?
Alors, c'est un musée, on parle du musée du jeu vidéo de l'agence de communication Alerte Orange. Et c'est un musée du jeu vidéo, c'est assez cocasse, qui a vécu 13 jours, ce qui est très peu. C'est pas beaucoup au niveau pérennité, c'est très très moyen. Pour plein de raisons, je ne vais pas les évoquer maintenant à l'antenne, mais bon, voilà.
On renverra les auditeurs à la documentation qu'on mettra sur la page de l'émission, bien sûr.
Voilà, il y a plein de raisons politico-industrielles ou quelque chose, enfin ouais, financières, enfin ouais, voilà. Bref, ils n'ont pas, j'estime personnellement, été très malins. Et donc, c'est un musée qui n'a vécu que 13 jours et qui, de toute façon, n'avait pas du tout une portée patrimoniale. Donc finalement, ce n'était pas du tout intéressant. C'était juste un affichage de collection dans des vitrines du PDG. Mais on s'en fout, mais complètement. Et par contre, le deuxième, lui, était beaucoup plus intéressant. Finalement, notre musée de jeux vidéo, on va dire, est potentiellement le troisième. À moins qu'il y en ait une autre, c'est possible. Mais c'est certainement le troisième musée du jeu vidéo qui naît en France. On espère qu'il sera beaucoup plus pérenne que les deux précédents, malheureusement. Mais le deuxième, lui, était déjà beaucoup plus intéressant parce qu'il a été, il s'appelait donc le Pixel Museum, qui était à Schittingheim, en 2017, peut-être, 2016, je sais plus, qui était un musée privé qui était assez qualitatif, hein, très joli, et qui, a priori, pour des raisons financières, n'a pas vécu, très longtemps. Enfin, il a quand même vécu, je crois, 2 ans et demi. Bon, je dis ça de tête, hein, c'est dans ces eaux-là, mais je pense qu'après ils ont eu trop de problématiques financières et donc c'est un musée qui a déménagé à Bruxelles entre-temps, qui s'est transformé et est allé à Bruxelles. Donc il n'y avait, en tout cas lorsque né en 2025 le musée du jeu vidéo de l'association M5, il n'y avait déjà plus de musée du jeu vidéo en France depuis déjà pas mal d'années. Et certains d'entre eux finalement qui n'ont pas servi à grand-chose, voilà.
Il y a d'autres projets, comme le musée de l'informatique et du numérique de France, qui est porté par le CNAM, qui est un vieux serpent de mer, là aussi. Hein. Je crois qu'on en parle depuis une vingtaine d'années. Hein. Il y a eu des livres blancs et tout ça.
Peut-être un peu moins, mais dans ces eaux-là, ouais.
Eux, leur idée, c'est de construire un musée public de l'informatique.
Oui.
Vous seriez associé à une initiative qui serait devenue un musée public, voire un musée national de France?
Alors, je puis même dire qu'en fait, ce projet-là, je suis une des têtes de ce projet depuis une dizaine d'années. L'association MO5 travaille avec le CNAM et maintenant beaucoup d'autres partenaires. Et ce projet-là, donc, qui a rencontré certaines difficultés d'organisation, malheureusement, du côté potentiel de ceux qui l'ont créé, côté CNAM, etc., finalement, n'offre plus beaucoup de support. Et donc, il a été repris, ce projet de label de musée national dédié à l'informatique et au numérique, par différentes institutions françaises, qui, elles, sont vraiment très actives, dont MO5. Mais on peut citer Silicium, on peut citer Laconit, on peut citer Terra Numérica à Nice, on peut citer le centre IN2P3 donc à Lyon, différents partenaires voilà qui reforment ce projet-là et qui est, il faut bien le comprendre ainsi, on va peut-être pas épiloguer trop longtemps dessus, mais qui est pour créer en fait un label de qualité pour que des institutions implanté nationalement un peu partout dans le territoire, hein, et pas un seul grand musée du numérique ou d'informatique française, hein, quelque part à Paris ou ailleurs, eh bien en fait, différentes institutions puissent adhérer à ce label et offrir certaines qualités d'accueil du public, de pédagogie par rapport à l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo, en affichant ce label-là. Et donc, c'est un projet qui reprend du poil de la bête, et je suis un des membres actifs du petit collectif qui s'occupe de ça. Et maintenant, je peux l'annoncer, même si on n'a pas encore communiqué, maintenant on change de nom. Avant, c'est le projet MINF. Et maintenant, ce projet s'appelle maintenant Alphanum. Et Alphanumérique, si on peut dire. Et donc, d'ici quelques mois, nous allons communiquer le nouveau plan de développement de ce projet et avec, je pense, certainement beaucoup plus de succès que ce que n'a obtenu le projet NIMF lorsqu'il est né dans les mains du CNAM.
Il y a un projet qui a été monté par deux youtubeurs qui ont lancé d'ailleurs un crowdfunding derrière. Mmh. Ce projet donc de musée du jeu vidéo s'appelle Odyssée. Quelle est votre position par rapport à l'autoproclamé plus grand musée du jeu vidéo au monde? Quelle différence entre un musée créé par un entrepreneur et celui monté par une association?
Nous, on n'a pas beaucoup de détails, hein, en fait, sur même à notre échelle, sur ce que sera le projet Odyssée, le musée du jeu vidéo au sein du projet Odyssée. On a compris que c'était un grand village japonais avec d'immenses galeries commerciales et un musée du jeu vidéo dedans. Je doute que nos projets soient comparables, finalement, je pense. Enfin, même par nature, ils ne le sont pas, puisque notre musée est un musée d'essence, hein, qui est associatif et bénévole, alors que là, on parle évidemment d'un musée qui est commercial et privé. Donc j'ai envie de dire, on verra bien. Ce qui est très important, je pense quand même de le, je pense qu'il faut le répéter. Et d'ailleurs, je l'ai dit il y a quelques minutes à peine, c'est que jusqu'avant l'ouverture de notre musée de jeux vidéo de l'association MO5, il n'y avait plus du tout en fait. Il n'y avait plus du tout de musée de jeux vidéo en France. Voilà. C'est pas qu'il y en avait 1, 2, 50, il y en avait 0. Donc là maintenant, il y en a un, au moins un, celui de MO5, et peut-être plus tard, en 2028 ou X, si le projet Odyssée va jusqu'à son terme, eh bien, il y en aura deux. Ben, pourquoi pas? Il vaut bien mieux qu'il y en ait deux.
Il y a de la place pour tout le monde.
Ah, il y a de la place. Voilà. Et il vaut bien mieux qu'il y en ait deux qu'il n'y en ait pas du tout. Voilà. C'est ça le message, en fait. Mais voilà, je pense que nos musées seront certainement très différents et que, ben, le public, ira à droite ou à gauche, peu importe, tant qu'il trouve du plaisir, c'est le principal. Voilà. Mm.
Réduire sur la thématique du jeu vidéo, c'était pour avoir une expo satisfaisante pour commencer ou un appetizer avant d'enfin commencer l'exposition de gros mainframe, genre Bull, IBM 360 ou Cray XMP?
Oui, bah, effectivement, et pas mal de gens se posent la question parce que de toute façon, par nature, l'association MO5, déjà, elle porte le nom d'un ordinateur, déjà, à la base. D'ailleurs, tu sais qu'on nous a souvent posé la question, est-ce que vous ne préservez que le Thomson MO5? C'était très drôle. C'est quand même très drôle. Donc, la réponse est non, évidemment. Et donc, nous, on est comme Silicium et beaucoup de copains, hein. On va pas les citer, on dirait trop, Musée Ripley, etc. On s'occupe de tout. On n'est pas que dédié que jeux vidéo, on n'est pas dédié que informatique, sérieuse ou pas. On fait absolument de tout parce que dans le numérique, mais quand même dans le numérique qui a touché le grand public, depuis son avènement grand public, on va dire au milieu des années 70, hein, à peu près, à partir de là, eh bien, tout est important. Tout est important pour expliquer où nous en sommes arrivés en 2025, 55 ans plus tard. Ce musée du vidéo, effectivement, il porte un nom qui est malgré tout le plus, j'allais dire un terme moche, mais c'est comme ça, le plus racoleur possible, parce que un musée d'informatique, c'est plus assez compliqué à vendre, puisque pour l'instant, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien en France. Donc là, on a pris le parti de partir de l'image d'un musée de jeux vidéo dans lequel il y a massivement, effectivement, majoritairement du jeu vidéo, mais avec les projets que l'on a pour ce musée, et on espère donc que celui-ci va être pérenne et va progresser, eh bien, on ouvrira davantage, je l'espère, c'est mon souhait personnel déjà, en tant que président, ouvrir davantage, notamment de galeries, qu'elles soient permanentes ou temporaires, dédiées vraiment à l'informatique pure, et notamment aux gros systèmes.
Et puis vous profitez indirectement de l'immense razzia au Game Awards par le jeu Clair Obscur, Expédition 33.
Ouais, exactement, Sandfolk qui sont des copains.
Ça, c'est un hasard, tant mieux.
Ben, c'est des copains de Montpellier, hein, donc ça tombe très bien. Et puis, justement, je pense que j'arrive à les voir bientôt. Mais voilà, c'est le musée du vidéo, le jeu vidéo en France, c'est quelque chose qui est important en termes de médias culturels et de diffusion de la culture française, notamment Clair Obscur est un très très bon exemple, hein, béret baguette. Il y a toute une image à lier au public et surtout combler ce manque qui était le plus important, je le répète, à faire, qui était qu'il n'y avait pas en France de musée du jeu vidéo, et ça c'était complètement anormal par rapport à tous nos copains européens. Donc ce manque-là est comblé. Après, à partir de là, on l'espère tous, faire progresser le musée et absorber et pouvoir montrer des collections autres que du jeu vidéo pur, et ce qui signifie de la télématique, de l'informatique, et de la micro-informatique, toute expérience liée au numérique est bonne et intéressante, voilà.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons du musée du jeu vidéo qui vient d'ouvrir à Arcueil avec Philippe Dubois, le président fondateur de l'association MO5 qui est derrière. Philippe, les éditeurs de jeux et constructeurs de consoles et ordinateurs, est-ce qu'ils participent à cette aventure ou est-ce qu'ils ont trop honte de certaines pièces exhibées au public comme une pièce à conviction ?
Non, ils participent. Alors, il faut savoir que, comme ça fait bientôt 23 ans que l'association MO5 est active, très active, une des plus actives en Europe, et puis surtout affiche clairement les couleurs de son intérêt pour participer à la création d'un musée national, d'envergure nationale, dédié aux jeux vidéo. Et en fait, nous avons pu nouer des partenariats très solides avec beaucoup d'éditeurs, et notamment les deux syndicats du jeu vidéo en France, qui sont le SNJV et le CEL. Voilà. Et donc là, alors je crois que c'est pas encore en ligne, ça ne saurait tarder, mais on est très 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 heureux de pouvoir afficher un partenariat officiel avec le CEL. C'est-à-dire que les plus gros éditeurs mondiaux de jeux vidéo, au travers de l'antenne française que représente le CEL, soutiennent notre projet de musée du jeu vidéo et pour beaucoup d'entre eux, nous autorisent, lorsqu'il y en a besoin d'aller vers eux, à mettre dans les mains du public les œuvres qu'ils ont conçues. Et ça, c'est vraiment primordial.
Le CEL, c'est les éditeurs et le SNJV, c'est entre guillemets les prolétaires.
Il y a le CEL qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs dans lequel il y a les gros constructeurs, éditeurs, Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, etc., Namco, Capcom, tout ça. Et le SNJV, c'est plutôt le syndicat national, avec une envergure nationale, qui gère les petites et moyennes structures, studios de développement, indé ou non, qui font partie du SNJV. Et le SNJV drive notamment en partie le crédit d'impôt pour le jeu vidéo. Donc c'est très très important, et ce qui permet de maintenir une créativité, une industrie du jeu vidéo, une industrie culturelle pour le jeu vidéo en France, ce qui est clairement son meilleur moyen de diffusion culturelle actuellement dans le monde. Donc c'est très très important, et les deux syndicats donc sont des partenaires de MO5 depuis très longtemps maintenant. Ils ont signé, en tout cas pour le CEL, a signé officiellement donc pour le soutien du musée du jeu vidéo, et puis beaucoup d'autres partenaires qui nous rejoignent. Par rapport à la question que tu posais, moi j'avais une anecdote qui est assez rigolote, c'est que il y a par exemple pour une Game Story, qui sont les plus grosses expositions qu'on réalisé encore juste avant la création du musée, on avait voulu mettre jouable un Outrun 2, sur PlayStation 2, et qui est un jeu de Sega, et en fait Sega nous a dit non. Et c'était Sega France ou Sega Japon, je sais plus. Mais ils nous ont pas dit non parce que ça les embêtait qu'on le fasse. Donc c'était pas cool dans le musée. Non, ils nous ont dit non parce qu'en fait ils venaient juste de perdre les droits avec Ferrari. Voilà, l'exclusivité de l'usage du logo Ferrari, ils ne l'avaient plus. Donc du coup, on pouvait plus mettre ce jeu vidéo là jouable dans les mains du public qui affichait sur la voiture et le volant le logo Ferrari.
Donc ils ont fait jouer leur droit moral à cause du fait qu'ils ne puissent plus montrer justement cette marque de voiture. Ok.
Mais tu vois, il y a pas de souci en soi. Et puis ou un autre exemple, par exemple, ça c'était aussi à Québec. On voulait mettre GTA 3 ou 4 jouable, et l'éditeur, je crois que c'est Rockstar si je dis pas de bêtises, nous a dit ça nous embête un peu parce que là vous allez mettre ce jeu qui est quand même assez violent dans les mains du public et tout âge. Au Québec, il n'y avait pas encore le PEGI à l'époque, des choses comme ça. Et donc, ils nous ont dit, non, on préférait que vous mettiez autre chose. Donc, on a mis autre chose, mais c'est pas grave. Voilà. C'était assez sensé comme pensée, il n'y a pas de problème.
Je tiens à préciser, d'ailleurs, de ce que j'ai vu des reportages vidéo sur les expos, c'est que vous avez au moins un developer kit de console de jeu. C'est du matériel qui est extrêmement rare et sur lequel les éditeurs, les constructeurs de consoles ne permettent pas en général de trop montrer, quoi. Donc c'est plutôt exceptionnel.
On en a beaucoup, on en a mis quelques-uns en vitrine justement au musée de jeux vidéo, mais on dispose de beaucoup plus. Il y en a même, il paraît certain qu'on ne peut pas montrer. Voilà. Je dirais ça comme ça vite fait.
Sûrement celui de l'Amstrad GX4000. Un musée de jeux vidéo. Désolé. Un musée du jeu vidéo doit-il forcément contenir que des SAS FEPU, ou il peut avoir des PC de gamers dernier cri avec la RAM DDR5 qui vaut le prix de l'or actuellement?
Ah oui, c'est sûr que maintenant les prix se sont envolés. Non, mais il y a de tout. On nous pose souvent la question. D'ailleurs, une des règles entre guillemets, chacun fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que le rétro gaming, où s'arrête le rétro gaming? Nous, on a une règle à l'association MO5 qui vaut ce qu'elle vaut. C'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la pire. C'est que simplement, quand une console, une plateforme technique, ça peut être un ordinateur évidemment, n'est plus commercialisée par son constructeur, pour nous, déjà directement, elle tombe dans le rétro gaming.
Mmh.
Voilà.
Mmh.
Et donc, c'est une exposition où, en tout cas, dans l'exposition du musée du jeu vidéo, l'exposition permanente, il y a notamment des kiosques PS4. La PS4 n'est plus commercialisée. Et quelque part, pour les gens qui ont découvert ça, c'était quand même il y a 13 ans. Je sais plus.
Ah ouais. Mais... Oula, ouais, le coup de vieux que vous me foutez. C'est vrai que ça fait 5 ans, la PS5.
Et oui, 5 ans la PS5, 7 ans avant, ouais, ça fait à peu près ça. Ouais. Hein. Donc 12, 13 ans, je sais plus. Mm. La PS4, les premières, donc c'est déjà du rétro gaming. Oui, naturellement. Pour les premiers joueurs qui ont découvert ça, qui ont acheté maintenant potentiellement une PS5 ou autre chose, c'est du rétro gaming. Ils sortent leur ancienne console pour jouer, peut-être.
Et pour continuer sur l'expérience rétro gaming pure, il y a des bornes d'arcade en libre-service. Est-ce qu'il faut venir avec de la monnaie en francs?
Ah, on aurait pu regarder les monnaies, mais en fait, non, tous les jeux d'arcade et les flippers sont gratuits.
Oh.
Puisqu'on paye son ticket d'entrée, eh bien, on a stipulé, évidemment, que les gens pouvaient jouer à tout ce qu'ils voulaient, autant qu'ils voulaient, tant qu'ils avaient un petit peu de temps. Puisque la visite, ça on l'a peut-être pas dit, est censée se faire en 2 heures. On a 2 étages pour l'instant, et il y en aura peut-être un jour plus ou moins. Mais en tout cas, pour l'instant, sur les 2 étages, il vaut mieux passer à peu près 2 fois 1 heure pour bien faire le tour et bien avoir le temps de jouer à toutes les œuvres.
Et faire la queue et faire la relève en mettant la pièce de 5.
Exactement.
1200 mètres carrés de surface exposée. Ça va demander beaucoup de gardiens de musée. On pourra les défier à la manette.
Ils n'auront pas beaucoup de temps de jouer. mais effectivement, le mécanisme, le fonctionnement du musée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs ça qui nous différencie au maximum de projets passés ou peut-être à venir de musées de jeux vidéo commerciaux, on va dire, c'est que ça reste un musée associatif et bénévole.
Mmh.
Donc lorsque le public vient nous voir, il y a un salarié, effectivement, dans le musée qui est en fait le gardien. Il s'appelle Nicolas, on lui dit bonjour. Mais finalement, tous les membres qui vont voir dans l'exposition, qui vont les guider, qui vont leur dire comment jouer, qui vont peut-être leur expliquer pourquoi tel jeu, pourquoi telle machine ou son histoire, ce sont tous des bénévoles de l'association MO5, puisqu'on a la chance d'avoir un grand panel de membres bénévoles disponibles, notamment sur Paris, plusieurs dizaines, voire presque centaines. Et bien, en fait, ce sont ces membres-là qui vont venir, guider le public pendant les 2 heures de visite, le mercredi, samedi, dimanche après-midi. Et de ce fait, c'est un trait qui est quand même très, très différentiel de potentiellement d'autres musées dans lesquels, évidemment, il y a des salariés, des personnes payées pour, des médiateurs, des choses comme ça. Nous, on travaille de manière associative et bénévole, depuis toujours.
Et c'est énorme. Alors, je suppose qu'il y aura une exposition permanente, peut-être aussi des expositions temporaires ?
C'est ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu le temps ou la place de mettre notamment des expositions temporaires, d'ouvrir des espaces d'exposition temporaires. On y travaille. On espère tous que dans l'année, on aura l'opportunité de créer ce genre d'espace, parce que vu le bruit qu'on fait avec l'ouverture du musée du jeu vidéo, avec tous nos partenaires, je l'ai dit, éditeurs, constructeurs, que ce soit des professionnels ou non du milieu, et en fait, on a des propositions déjà qui tombent presque tous les jours de thèmes qu'on pourrait développer dans des galeries temporaires. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la télématique. J'étais sur Discord MO5 tout à l'heure. Il y a un membre à lequel on rigolait bien, qui me dit, mais ça serait génial d'ouvrir une petite salle avec 5 Thomson MO5 en nanoréseau.
Sachant que c'était 8 et il fallait un ordi, un IBM à l'époque.
Oui, il faut un IBM pour le piloter, mais c'est compatible et qui alimente ça. Ouais.
L'ambiance salle de classe, quoi, forcément.
Voilà, par exemple. Mais pourquoi pas, c'est rigolo. C'est vrai que on voit plus, et surtout on le verra plus jamais, entre guillemets, si nous ne nous mettons pas en œuvre ou de temps en temps dans des expositions, etc. Mais voilà, des thématiques comme ça, il y en a plein. Je me rappelle même un autre exemple très très amusant, mais que j'aime beaucoup. C'est pendant la Paris Games Week, pendant l'annonce de l'ouverture du musée du vidéo, un mois et quelques à peine après, eh bien en fait, il y a un collectionneur de cartes vidéo PC, un des plus gros collectionneurs de cartes vidéo PC du monde, qui est venu nous voir, qui s'appelle Alexander, qui m'a dit, moi je suis, il est ukrainien, il est allé en Pologne, il est parti d'Ukraine, il est allé en Pologne. En Ukraine, il avait déjà ouvert dans son lycée une galerie dédiée aux cartes de jeux vidéo PC, une espèce de mini-musée de la carte vidéo. En Pologne, il a créé un autre musée de la carte de jeux vidéo PC. Et en France, il voudrait faire la même chose. Et donc, je lui ai dit, écoutez, quitte à faire quelque chose aussi intéressant que ça, parce que c'est très intéressant, parce qu'ils ont évidemment des prototypes de voodoo, des machins, des trucs comme ça, eh bien, créons-le dans notre musée. Donc, mon idée maintenant, enfin, en tout cas, mon intérêt, c'est que dès qu'on le peut, si on le peut, ouvrir des galeries temporaires, et notamment pour accueillir les collections de centaines de cartes de jeux vidéo PC de cette personne-là ou de ses collègues, pour créer une galerie dédiée à l'histoire des cartes de jeux vidéo PC, quoi. C'est très rigolo.
Pour nos auditeurs qui ne comprennent pas la portée de ce dont on parle, l'ordi PC tel que vous le connaissez actuel, son ancêtre date de 1981. Les premières cartes vidéo, il y avait MDA, Hercule, CGA, c'était incompatible jusque dans l'adressage mémoire et la manière de s'y adresser avec l'interruption 10. Et ensuite, il y a eu toutes les cartes CGA étendue, EGA étendue, VGA étendue. C'est un monde, et en même temps, il y a des choses à voir physiquement sur la carte, de même que sur la documentation, il y a beaucoup de choses qui étaient assez surprenantes, dont les voodoo, les cartes qui étaient en duo, avec une couche 3D qui se mettait par-dessus l'affichage 2D.
C'est ça.
C'est un truc assez dingue.
Exactement.
Mais là, on parle de trucs quand même, de vieux codeurs velus, barbus et graisseux sous les aisselles. Mais du coup, est-ce que ces expos pourraient devenir justement itinérantes?
Oui, on a dans l'idée, de toute façon, je dirais même que par nature, l'association MO5 qui porte donc ce musée de jeux vidéo, il n'y a pas réellement d'entité créée qui s'appelle musée de jeux vidéo, c'est une marque en fait de l'association MO5. Le musée de jeux vidéo est une façade, une très belle façade, mais toute la gestion derrière, c'est l'association MO5 et ses bénévoles. Et donc l'association MO5, elle a déjà pour elle, depuis presque 23 ans qu'elle existe, d'être une association la plus active d'Europe pour donc créer ou participer à des expositions grand public liées donc aux jeux vidéo et à l'informatique. Et donc c'est un travail qui va continuer. Voilà, c'est pas parce qu'il y a le musée du vidéo qu'on arrête maintenant de participer aux gros salons de culture populaire qui peuvent être la Paris Games Week, la Japan Expo, Paris Manga ou des expositions dans les petites médiathèques. On va continuer, l'association MO5 va continuer ses activités. Et la grande différence, c'est que maintenant, nous avons un musée.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes dans un musée vidéoludique. L'inauguration du musée du jeu vidéo a eu lieu au moment où nous enregistrons il y a une semaine, et nous sommes donc avec le président fondateur de l'association MO5 qui l'organise, Philippe Dubois, qui nous fait vraiment la sympathie de nous rejoindre. MO5, vous avez tenu à ouvrir un musée vivant, et en plus un musée de gaming, de jeux par excellence, avec toute la mauvaise foi qui va derrière et le grand jetage de manettes sur le mur. Quand on expose des appareils et qu'on laisse le public s'amuser dessus, il y aura forcément de l'usure, des bris. Donc cela veut dire que l'expo se limite à des appareils qui ont beaucoup d'exemplaires. Vous avez beaucoup de machines en spare, un atelier dédié de réparation, un portail temporel vers un magasin Tandy de 1986?
Ah, si seulement, si seulement. Si seulement on avait ça, c'est ce qui me manque en fait. C'est mon magasin Tandy de mon enfance, de mon adolescence, ça c'était la magie. Non, mais on a effectivement un petit peu tout cela, comme tu disais. Alors, il y a effectivement de l'usure. Les gens, lorsqu'ils viennent, ils touchent les manettes. Ils se fait pour. Les télévisions, elles tournent. Et ça fait des fois 20, 30, 40 ans qu'elles tournent. Les ordinateurs ou les consoles de jeux également.
Des téléviseurs à tubes. C'est bête à dire, mais c'est tellement rare.
Oui, bien sûr, téléviseur cathodique.
J'ose pas imaginer votre facture d'électricité, elle doit pas être triste.
Non, ça va. Mais non, ça consomme pas tant que ça, faut pas exagérer. C'est des petits tubes, c'est des petites télés. Mais voilà, donc il y a effectivement de l'usure matérielle, mais ça on le sait, depuis 23 ans. C'est quand même un chiffre qui est important, même si ça reste une estimation. On a créé, depuis qu'on existe, depuis 23 ans, l'association MO5 a créé ou participé à plus de 700 expositions dans le monde entier. C'est énormissime. Ouais. On a une expérience, que pour résumer ce que ça veut dire, c'est qu'on a une expérience pour la valorisation de nos collections du patrimoine numérique ancien et les remettre dans les mains du public qui est extraordinaire. Et donc, on connaît très bien nos machines, on connaît très bien nos matériels, on sait très bien lesquels sont fragiles à mettre ou ne pas mettre dans les mains du public, ou si on le fait, de quelle manière, etc. etc. Il y a vraiment aucune découverte par rapport à ça. Ça, je le dis aussi, et de manière relativement fière. Depuis 23 ans qu'on organise des expositions avec des micros, des consoles et des trucs même des fois plus bizarres, bien en fait, on répare absolument tout chez MO5. On a toujours tout réparé. nos Amstrad, nos PC, nos consoles de jeux, les NES, les machins, les VCS, les vidéopacks, n'importe quoi. Tout ont toujours été réparés et également les manettes. Les manettes de jeu, on est apte à en réparer au moins une grande quantité, peut-être pas tout, ou à trouver des pièces, même si, par exemple, on peut parler de, tu vois, des coussinets qui sont sous les boutons des manettes. Les petits coussinets en caoutchouc.
Ouais, c'est l'astomère, ça a tendance à se décoller parce que
ça se coupe, se déchire, etc. Mais en fait, il faut bien savoir que ce genre de pièces, par exemple, on peut toujours en acheter de nos jours.
Ah, d'accord.
Ça se trouve.
Ok.
Voilà. Il n'y a aucun problème pour en trouver. Alors, c'est pas ceux d'origine, mais ils fonctionnent très bien. Et on est capable, dans des cas extrêmes, par exemple, de reproduire soit des composants,
wow,
avec des technologies FPGA ou recréer des ROM ou des choses comme ça, évidemment.
On parlera bientôt justement du FPGA et de la portée sur le rétrocomputing. L'interview est en cours de montage.
Ah bah ouais, c'est très très important. C'est très très chouette comme technologie. On est capable de recréer des PCB de machines, si jamais il y a des problèmes. Et puis on en est maintenant à étudier, outre les trappes ou les boutons, les manettes qu'on peut réimprimer en 3D, la prochaine étape, c'est avoir le matériel qui nous permettrait de reproduire des carrosseries complètes.
Wow.
Voilà.
Ah ouais,
donc
magnifique.
C'est en étude, mais on travaille pour cela avec des communautés internationales, des fans de machines qui sont aussi bien au Japon, aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs, qui eux également participent à l'effort de guerre. Et donc, on met en commun toutes ces compétences, toutes ces technologies qui nous permettent de continuer à faire vivre le matériel ancien.
Je crois même que vous avez un exemplaire de la toute première console de jeu avant même l'Odyssée.
Oui.
L'un des 7 exemplaires qui existent et qu'elle a été donnée par le créateur qui l'a étendu pour vous.
C'est ça. Exactement. C'est donc un prototype, c'est un clone, mais officiel, hein, créé par Ralph Baer, de la Brown Box, qui est donc le prototype et donc la maman, entre guillemets, l'ancêtre de toutes les consoles de jeux vidéo du monde. Et donc, nous avons la chance d'avoir eu le 7e et dernier exemplaire jamais créé par son créateur pour notamment l'exposition Game Story Québec. Voilà.
Wow.
Et cette pièce figurera dans des vitrines. Évidemment, elle est pas jouable. Elle fonctionne, hein. Elle fonctionne très bien. Mais elle sera pas typiquement mise dans les mains du public. Par contre, on pourra faire des ateliers. Voilà. C'est-à-dire des ateliers pédagogiques, hein. Il y a des rendez-vous qui sont pris régulièrement maintenant au musée, en disant bah, tel week-end justement, là on n'en a pas programmé expressément pour cela, mais on peut très bien se dire voilà, le samedi X de tel mois, de 14h à 16h, venez découvrir une démonstration de la Brown Box, c'est-à-dire donc le prototype de toutes les consoles de jeux vidéo. Ça, il n'y a pas de souci. Ou on ferait de même avec le Micral N, puisqu'on a la chance de pouvoir travailler avec ce Micral N qu'on a restauré et qui est fonctionnel. Hein. C'est le seul Micral N fonctionnel au monde.
C'est le premier micro-ordinateur.
Hein. Et oui, le premier, tout premier micro-ordinateur commercialisé.
Celui qui a inspiré Bill Gates, sur la légende.
Voilà. Et donc, on dispose d'un exemplaire qui fonctionne parfaitement bien plus de 50 ans après. Et donc là aussi, on va pas les mettre dans le monde public. Et puis au niveau jeux vidéo, c'est quand même très limité. Mais par contre, un atelier pour faire découvrir cet ordinateur, la manière dont il fonctionne avec ses cartes, avec ses périphériques, etc., c'est très très important pour nous. Et donc ça, on pourra le programmer.
Si on souhaite soutenir le musée, qu'est-ce qui vous manque? La collection 01 informatique sur l'année 2001, le manuel du Minitel 5 de la mallette nucléaire, le CD-ROM québécois de Fenêtre 95.
Bah, il nous manque toujours des petites choses. Il faut bien comprendre aussi, ça c'est très important pour nous, c'est que les collections de MO5 et notamment celles du coup qui sont figurées maintenant au musée du jeu vidéo sont à 95% ou plus des dons. Ce sont des donations en fait, voilà, qu'on reçoit depuis à peu près 30 ans, parce que dès que je suis devenu collectionneur en 1996 avec le tout premier site, premier musée virtuel dédié au patrimoine numérique, hein, qui s'appelait Musée d'histoire naturelle informatique, eh bien en fait j'ai immédiatement commencé à recevoir des dons de personnes qui justement, bah, tout comme maintenant, c'est exactement le même cas, estimaient que notre action était la bonne, que effectivement il était important de préserver ces vieilles machines, ces vieux logiciels, ces vieux jeux vidéo, parce que ça faisait partie de leur culture, de leur histoire, à eux, leurs utilisateurs et utilisatrices. Et donc, ces personnes-là nous font des dons depuis près de 25 ans, 26 ans, pour que ces machines-là et ces œuvres soient préservées. Et du coup, ce sont celles que l'on met dans les expositions et dans le musée, puisque, pour reprendre un peu la discussion ou la question de tout à l'heure, effectivement, on va retrouver dans le musée des machines, on va dire, en tout cas, dans les mains du public, de manière continuelle, des machines plutôt communes, qui sont des micro-ordinateurs que tout le monde a connus, un Apple II, qui est un Commodore 64, etc., parce que c'est pas du tout difficile à trouver. Dans les consoles, on va retrouver de la NES, de la VSS, de la Mega Drive, des choses comme ça, les grands pontes des consoles de jeux 8 ou 16 bits et X, etc., etc. Et donc, les œuvres ou les machines ou les matériels ou les œuvres vidéoludiques plus rares et qu'il faut vraiment préserver en qualité de musée, parce que c'est ce que nous sommes, là, par contre, font potentiellement l'objet de démonstrations lors d'ateliers pédagogiques.
Et je crois qu'on peut aussi soutenir financièrement le musée.
Le meilleur moyen de soutenir le musée, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, c'est de devenir membre de MO5, ce qui permet d'en ouvrir les portes gratuitement et entre guillemets autant qu'on les ait ou presque, hein, parce que les places commencent à manquer. Mais en tout cas, les membres de MO5 peuvent venir normalement au musée quand ils le souhaitent, parce que c'est le musée qui leur est dédié, mais c'est surtout le leur, ce pour lequel ils travaillent, pour certains d'entre eux, tout comme moi, depuis plus de 23 ans maintenant. Voilà.
En général, dans un musée, on trouve aussi une boutique. Mm-hmm. Que trouvera-t-on dans la vôtre ? Des manettes pour casque VR MetaQuest, des Thomson MO5 Mini, des manuels techniques de la prise JAMA ?
Il y a effectivement une boutique, elle n'est pas immensissime, mais peut-être pour l'instant, parce que, je répète, c'est une première configuration. Alors, dans les mois à venir, on aura certainement l'opportunité de travailler sur des nouvelles configurations et dans lesquelles peut-être la boutique pourrait être étendue. Pour l'instant, elle est surtout dédiée au monde du livre et de l'édition avec notamment un partenariat avec la société d'édition Pix & Love, qui sont des amis depuis très très longtemps, des partenaires de MO5 depuis d'innombrables années. Mais également quelques consoles de jeux, il y a quelques goodies. Là, j'avais ramené avec moi une petite console Pac-Man officielle, hein, c'est évidemment que des produits officiels. Il n'y a pas de trucs chinois bizarres, qui sont créés sous le manteau, que des produits officiels dans la boutique. Mais il y a des petites consoles de jeux, il y a des petits goodies, il y a beaucoup de livres, il y a des jeux de Pix & Love, puisqu'il y a notamment les grosses cartouches de Metal Slug Tactics, qui sont disponibles, etc., etc. Voilà. Donc c'est un premier point de vente qui permet de partir avec un souvenir ou si on veut acheter pour Noël, pour les fêtes ou un anniversaire, un joli bouquin sur le jeu vidéo, on pourra le trouver dans notre boutique sans problème.
Je tiens à signaler d'ailleurs que vous m'avez sûrement montré la fameuse console Pac-Man, sauf que je n'ai pas votre retour vidéo, donc je reste dans les mêmes situations que nos auditeurs.
Pour l'avoir, c'est d'aller au musée.
Ouais. C'est le mieux, effectivement. Un musée un peu sérieux a généralement une connotation scientifique. Est-ce qu'il y a des conférences qui sont prévues?
Oui.
Ou des collaborations avec des groupes de recherche et des universitaires?
Tout à fait. Selon les travaux qu'on va devoir faire pour accueillir le public ou, je l'espère, pérenniser et surtout agrandir les espaces, si on peut, c'est organiser des colloques internationaux, voilà, qui seront d'ailleurs pas du tout dédiés que aux jeux vidéo, hein, encore une fois, parce que d'ailleurs c'est assez relativement rarement le sujet. C'est plutôt l'informatique ou le numérique ou l'IA ou des choses comme ça qui font évidemment beaucoup les choux gras de l'actualité actuellement. Donc on a la volonté d'organiser des colloques internationaux, notamment parce que je l'ai dit tout à l'heure, le musée du jeu vidéo de MO5 fait partie d'une fédération européenne avec d'innombrables membres qui ont également des librairies nationales, des bibliothèques nationales ou des musées dans d'autres pays d'Europe et qui ont qui raffoleraient venir en France et à Paris pour visiter notre musée. Et l'occasion rêvée pour eux, ce serait d'organiser un colloque international, bien sûr.
Et ça permettra aussi, d'avoir des travaux sur l'ergonomie du jeu vidéo, des travaux sur justement l'historique, la création et tout le reste. Ouais.
Ouais, c'est exactement ça.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Philippe Dubois par satellite depuis Arcueil, depuis le musée du jeu vidéo qui donc a ouvert depuis décembre 2025. Quelle est votre position officielle vis-à-vis des sites genre Abaddonware, des sites où ils publient des jeux, des magazines supposés oubliés? Parce qu'il me semble que question droit d'auteur, on est quand même dans du piratage.
Ouais, c'est un peu compliqué, effectivement. Nous, de manière très, très simple et très résumée, vu notre position, vu les partenariats, je vous ai dit tout à l'heure avec notamment les deux grands syndicats de jeux vidéo en France, le fait également que l'on ait d'innombrables membres d'honneur qui sont des créateurs de jeux vidéo de renommée mondiale, il va sans dire que...
Ou des journalistes, ou des éditeurs de presse d'ailleurs.
Voilà, exactement. S'il faut se mettre d'un côté ou de l'autre de la barrière, on est évidemment complètement du côté de la barrière des ayants droit. Donc pour nous, le piratage est à proscrire. Par contre, le constat est, et ça c'est très malheureux, c'est que aussi bien en France que dans beaucoup trop d'autres pays du monde, les mécanismes institutionnels pour protéger l'accessibilité aux œuvres vidéoludiques ou numériques anciennes ne sont pas du tout actives. Il n'y a rien en fait qui permet justement de protéger. On peut accéder à un vieux film ou à une vieille musique. Il y a des syndicats pour ça, il y a des archives, il y a des institutions comme l'INA, la BNF, etc. Mais pour avoir accès à ces jeux vidéo anciens en contournant probablement leur mécanisme de protection, sans quoi on ne peut pas accéder à l'œuvre.
Oui, il y a la BNF qui a lancé une initiative de leur service de recherche qui s'appelle Keeping Emulation Environment Portable, où l'idée, ouais, c'est une machine virtuelle. Mais comment on fait dans ce cas-là pour...
Oui, mais la machine virtuelle, c'est sympathique, hein. De toute façon, c'est du Java ou ce qu'on veut, peu importe. Mais de toute façon, ça ne répond pas à la problématique qui est une œuvre vidéoludique depuis même plus de 30 ans, elle a des mécanismes de protection. Voilà, qu'il soit sur la disquette, la cassette, le CD ou peu importe. Et le simple fait, pour protéger cette œuvre, pour l'archiver, pour la préserver, pour l'avenir, de devoir contourner ces mécanismes de protection, c'est illégal. Voilà. Et aussi bien pour la BNF que n'importe qui d'autre, hein. Et donc ça, c'est très problématique, parce que si on reste pleinement dans le cadre de la loi de protection des œuvres privées, eh bien, en fait, on ne peut rien faire. Et donc, finalement, on voit toutes ces œuvres partir à la poubelle. Et ça, c'est évidemment inimaginable. Donc, par rapport à cela, nous, MO5, on a des chantiers, on a des réflexions, on a des partenariats avec différentes institutions dans des parties dans le monde entier qui se basent, qui ont ces réflexions-là, pour voir qu'est-ce qu'on peut utiliser, quels sont les outils qu'on peut mettre en œuvre, qui resteraient dans un cadre légal suffisant pour nous permettre de le faire officiellement, tout simplement. Et mais après, il y a beaucoup d'autres communautés qui, elles, sont vraiment très underground. On peut parler de gens comme Nointro ou Redump, et qui, entre guillemets, et c'est triste, hein, mais c'est le constat, font le sale boulot de manière totalement illégale et pirate, récupèrent tout ce qu'ils peuvent sur les markets dématérialisés, des constructeurs, des éditeurs, etc., pour sauvegarder tout ce qui a été conçu, et ce en quoi, s'ils ne le faisaient pas ça, en fait, on aurait déjà perdu peut-être 70% de tout ce qui a été produit comme œuvre vidéoludique depuis leur naissance dans les années 70.
Et on aura beaucoup de difficultés à sauvegarder tout ce qui est jeux et logiciels liés à des services en SaaS ou des plateformes distantes.
Exactement. Donc voilà, c'est une question complexe, mais on œuvre notamment, j'ai parlé de l'AFGAN, la Fédération européenne, tout à l'heure. Elle a pour rôle majeur, cette fédération européenne, et j'en suis un membre actif avec MO5, de discuter avec la communauté européenne, avec les députés européens, pour justement arriver, on le souhaite tous, hein, je pense que ça va arriver, à faire élire des lois qui protégeront l'accessibilité pour les œuvres vidéoludiques anciennes, pour les institutions culturelles nationales.
Sachant qu'il y a des tolérances qui sont prévues dans les lois sur et de la jurisprudence sur les DRM qui sont considérées comme obsolètes et tout ça, mais ça ne règle pas tout, ça ne met pas à l'abri. Non. Et de toute façon, le droit moral court toujours, puisqu'on est en France. Point de vue donc musée sur le jeu vidéo, il y a aussi les jeux muséaux eux-mêmes, comme ceux qu'édite le studio Eclipse, qui a produit pour Karateka de Jordan Mechner, Tetris, Mortal Kombat, sont des œuvres absolument magnifiques. Ça permet justement un petit peu de travailler, de collaborer avec des éditeurs de ce genre d'applications, voire d'ouvrir des catalogues.
Ah oui, complètement. Hein. Donc c'est Eclipse et puis la Video Archive Foundation, voilà, aux États-Unis, qui travaille là-dessus. Alors il faut savoir que ils font un travail formidable, hein. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Il faut les soutenir. Et nous, finalement, on essaie de faire un petit peu la même chose, si ce n'est qu'il y a quand même une donnée qui est radicalement différente entre, notamment ici, les États-Unis et la France. C'est qu'aux États-Unis, le jeu vidéo et l'informatique ont tout de suite fait partie de leur patrimoine. Il n'y a pas eu besoin de se battre comme on le fait en France pour le faire reconnaître et le valoriser. Chez eux, ça fait partie de leur culture industrielle, puisqu'ils ont en gros massivement inventé l'informatique et les jeux vidéo, et donc ils ne se sont pas posé la question comme c'est le cas en France ou en Allemagne, etc. Donc ce travail-là est facilité. Ils ont également donc le potentiel de archive.org, qui est une gigantesque usine à sauvegarder tous les codes sources et les logiciels, même des fois pirates, qu'on peut bien y verser. Mais au moins, ces œuvres-là sont préservées dans cette espèce de maelstrom, de trou noir de l'archive numérique qui est Archive, et avec les gens de la Fondation à côté. Donc, ils ont voilà ce duo assez magique qui marche plutôt bien. Clairement, en France, nous ne jouissions pas du tout des mêmes outils, très malheureusement.
Archive.org qui travaille d'ailleurs en collaboration en partie avec la BNF justement sur la préservation du web, au moins sur cette partie-là.
Yep.
Alors, à titre de directeur du musée donc du jeu vidéo d'Arcueil, quels autres musées informatiques et ou vidéoludiques vous nous conseilleriez d'aller voir?
Eh bien, il y en a plein en fait. Hein. Je disais que la France était un des rares pays, au moins européens, que je connaisse, qui n'est pas son musée dédié un petit peu à tout cela. Donc, il y a notamment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontré d'ailleurs aux Journées européennes du patrimoine 2025 à Nice, qui est Bart, le géniteur du Home Computer Museum aux Pays-Bas. Et donc ça, c'est un exemple pour nous parce que il a un modèle assez particulier qui est d'ailleurs tout comme nous, extrêmement basé sur le bénévolat. Et en fait, il a acheté l'espace dans lequel ils sont avec ses collègues, et régulièrement, ils font tourner des collections, des branches de machines à faire découvrir, et organisent des expositions temporaires dans ce lieu, dans ce fameux Home Computer Museum. Donc c'est très très intéressant à aller visiter. Ils sont très calés, ils font tout comme nous et d'autres institutions, hein, ou associations comme Silicium, etc. Ils réparent leur matériel, ils préparent tout, enfin c'est super. Et puis je parlais notamment du Computerspielmuseum de Berlin, en Europe, enfin qui est donc évidemment à Berlin, en Allemagne, qui est le premier musée du jeu vidéo en Europe et qui sert de modèle. Ça c'est très intéressant, c'est très important, qui sert de modèle dans le monde entier. En Australie, ils ont fait appel au dirigeant, à Andreas Lange, qui est le créateur du musée. Et ils ont fait appel à lui pour créer la scénographie et pour s'inspirer du fonctionnement du Computerspielmuseum à Berlin, etc. etc. Mais il en dit innombrables. Hein. Je dirais presque quasiment tous les pays autour de nous ont soit des structures, soit des vrais musées qu'on peut visiter sur demande ou en accès libre depuis 10 ou 20 ans.
Tout à fait. Normalement, justement, puisque vous avez parlé rapidement de Silicium, j'aurais dû faire cette interview avec un comparse de l'association Silicium, Benoît, qui n'a pas pu être présent. Alors, je me permets de poser sa question à sa place. Quel conseil donneriez-vous à une autre association de rétrocomputing qui souhaite monter un musée?
Ouh là là. Ça, c'est une question complexe, mais la première règle, ça, c'est évident. Et mais c'est pas, ça tourne d'ailleurs, ça marche très bien pour Silicium, pour d'autres associations autour de nous. C'est d'abord de ne jamais lâcher l'affaire. En fait, les associations en France, c'est pas quelque chose qui est très soutenu, notamment quand on travaille dans le numérique et surtout dans le jeu vidéo et surtout dans le patrimoine, l'histoire du jeu vidéo. En termes de soutien au niveau gouvernemental ou ministériel, on a clairement quasiment rien. Enfin, nous, ça a été très compliqué.
Ouais.
On s'est, en gros, toujours débrouillé tout seul. Donc, ce qui veut dire qu'il faut surtout jamais lâcher l'affaire, mais qu'il y a des périodes qui sont extrêmement noires, très compliquées, notamment lorsque on a des problèmes de locaux pour stocker nos collections, que celles-ci risquent d'être détruites, etc., qui peuvent vraiment détruire des associations et des collectifs de collectionneurs qui travaillent ensemble depuis des dizaines d'années. Ça peut être très, très compliqué, mais il ne faut jamais lâcher l'affaire et surtout, ça, c'est très important aussi. Toujours travailler main dans la main avec les instances régionales, si ce n'est pas nationales. Voilà. C'est-à-dire les mairies, les élus, les chargés à la culture, ceux qui s'occupent du patrimoine de manière globale, les intéressés à ce qu'on fait, hein, donc du patrimoine numérique, certes, mais qui du vrai patrimoine maintenant, c'est avéré, et voir avec eux quel est le potentiel d'utiliser des lieux qui permettent de montrer l'attractivité du thème que l'on a choisi. Donc là, on en revient à ce fameux notre musée du jeu vidéo, qui est un thème qui plaît par excellence à tous les enfants. Il n'y a pas un enfant où très peu d'enfants en France qui ne jouent pas aux jeux vidéo, et très peu d'enfants en France pour lesquels le terme ou l'idée d'aller visiter un musée du jeu vidéo ne soit pas intéressante, clairement.
Oh, je suis sûr qu'on fait venir quelques députés et quelques sénateurs.
Oui, ce sera plus ardu. Voilà.
Il y en a qui vont jouer leurs différents à Puzzle Bubble. Ça ferait du bien, je pense, à la politique française.
Certainement. Voilà. Donc, effectivement, il y a toujours des gens un peu réfractaires à droite à gauche ou qui ne comprennent pas les enjeux culturels majeurs, puisque le numérique a transformé notre société dans ses fondements depuis très longtemps maintenant. Donc, il y a toujours quelques réfractaires, mais heureusement, entre guillemets pour nous, il y en a de moins en moins. Voilà. Et donc, il m'arrive de plus en plus, je peux citer par exemple monsieur le député Denis Masseglia, voilà, qui est un ami et qu'on croise régulièrement en salon. C'est une des personnalités à l'Assemblée nationale qui défend l'e-sport et le jeu vidéo auprès des autres députés. Or, il a deux fois un peu de mal. Mais voilà, s'il n'est pas seul, et puis il y en aura certainement dans le futur de plus en plus. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que le jeu vidéo et son patrimoine ont déjà gagné, voilà, en France, mais l'effort doit continuer. Voilà. On n'est pas encore au bout de l'open, mais ça commence à faire, comment on dit? Ça commence à gagner? Non.
Oui. Ça commence à faire tache d'huile?
Ouais, mais ça fait un peu péjoratif.
Non, ça envoie des bonnes vibes au loin et c'est tout ce que l'on vous souhaite.
Voilà, on commence à en voir les fruits. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On commence à en voir le fruit de notre politique et de notre travail tout ensemble de préservation et de valorisation de ces collections de jeux vidéo et d'informatique.
Monsieur Philippe Dubois, merci beaucoup. Donc, vous êtes président fondateur de l'association de rétrocomputing MO5 et donc, l'association a ouvert le musée du jeu vidéo qui est à Arcueil. Tous les détails sont sur la page web de l'émission. On mettra tous les liens ainsi que toute la documentation derrière. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité et vraiment au plaisir de se croiser.
Avec grand plaisir et puis merci beaucoup pour m'avoir invité à cette émission. Et puis je me permets du coup de faire un gros coucou, c'est même une bise à tous mes copains qui sont dans les communautés et autres associations tels que Silicium, Ordi Rétro, Musée Replay, etc. Et puis voilà, donc tous ces amis sont évidemment invités, mes invités au musée de jeux vidéo. Et on aura surtout, j'imagine bien, dans l'avenir, beaucoup de potentiel pour travailler ensemble pour que chacun réussisse à créer son petit musée de jeux vidéo.